Mais bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie qui couvre pour vous cette semaine un procès exceptionnel. Non pas à la manière d'Anna Arendt, le procès d'Eichmann à Jérusalem, mais celui de Socrate, 400 ans avant le début de notre ère, qui n'a pas fini d'inspirer les figures d'intellectuels dissidents encore aujourd'hui.
Le plaignant est prêt.
Nous sommes prêts, votre honneur.
L'audience est ouverte.
Bonjour Olivier Renaud.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre ainsi que l'auteur d'un livre intitulé Platon, la médiation des émotions, et c'est vous qui allez être le porte-parole des accusations proférées à l'égard de Socrate aujourd'hui. Vous êtes prêt ?
Oui.
Bon, pour mémoire, nous sommes en 399 avant Jésus-Christ, 5 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse qui a vu la cité d'Athènes sombrer dans une guerre civile entre les partisans d'un régime oligarchique d'un côté, ce qui deviendra les 30 tyrans, et les défenseurs de la démocratie. Ceux-ci parviennent à reprendre le pouvoir et c'est dans ce contexte que le citoyen athénien Mélétos se rend auprès du magistrat pour intenter une action judiciaire contre une figure bien connue des Athéniens, le philosophe Socrate. Alors de quoi Socrate est-il accusé ? La parole est au plaignant, qui est à l'époque un véritable accusateur, Mélétos donc, qui en surprend plus d'un par sa petite taille et son jeune âge. Le voici qui entre en scène.
C'est Mélétos, ce petit brun si maigre ?
Il a l'air bien jeune.
Il est très jeune aussi. Il fait ses premières armes aujourd'hui. Il n'a pas peur, il s'attaque à forte partie.
Taisez-vous et ça commence. Il m'a demandé la parole.
Athénien, juge, vous n'ignorez pas combien je suis dévoué à la cité aussi. Sans doute n'avez-vous pas été étonné que j'ai cru devoir porter devant l'Hébé et devant vous-même une accusation contre Socrate. Vous savez tous pourquoi j'ai déposé cette plainte. Parce que cet homme pervertit la jeunesse. Parce qu'il est coupable de ne pas croire au Dieu reconnu par l'État et d'introduire des divinités étrangères. Le scandale a assez duré. Beaucoup de mes amis, après avoir suivi ces pernicieux conseils, ont été perdus pour la République. Il est fini le temps où l'on pouvait rire des fantaisies de ce sophiste. Et les événements qui ont marqué notre génération ne nous permettent pas de plaisanter avec les choses sacrées. Oui, Socrate, qui n'a aucun respect pour les lois, n'en a pas davantage pour les dieux de nos pères. Il se moque de la religion de l'État et amène de l'étranger des dieux nouveaux, comme si les dieux étaient interchangeables et pouvaient, de même que les modes des femmes, venir d'Orient. Cet homme, j'en fais le serment, semble parfois lui-même se croire habité par un dieu. Juge, Athénien, je vous fais confiance. Vous condamnerez Socrate. Faute de quoi, c'est Athènes qui sera condamnée.
On ne plaisante pas avec les choses sacrées. Le ton est donné, Olivier Renaud, et les 3 chefs d'accusation sont prononcés. Perversion de la jeunesse, culpabilité de ne pas croire aux dieux et d'introduire des divinités étrangères, ce qui n'est pas la même chose, ça fait 3 chefs d'accusation. Vous allez nous expliquer sur quoi ils tiennent, parce que c'est pas évident non plus.
Oui, on va voir comment les chefs d'accusation qui ont été énoncés dans l'extrait qu'on vient d'entendre peuvent s'articuler, parce que leur articulation peut-être déjà n'est pas simple. Autant on comprend assez bien 2 premiers chefs d'accusation, que sont la non-reconnaissance des dieux de la cité et l'introduction de divinités étrangères. On comprend peut-être un peu moins bien comment la corruption de la jeunesse peut s'articuler avec ces 2 premiers chefs d'accusation. Mmh. En fait, il faudrait peut-être repartir de cette catégorie juridique qui est utilisée pour le procès de Socrate. Il s'agit, comme cela a été rappelé hier d'ailleurs, il s'agit d'une graffée assez béasse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire d'une action en justice publique menée par un citoyen pour le compte de la cité. Donc il ne s'agit pas d'un procès privé. Et il s'agit d'une accusation, donc graffée assez béasse, ça signifie accusation d'impiété, et qui était un chef, un chef d'accusation qui permettait justement l'énoncé de plusieurs types de griefs et qui sont justement ceux qui sont énoncés ici. Mmh. Je rappelle peut-être simplement que une difficulté peut-être que nous avons à comprendre ce que c'est qu'un procès pour impiété pour nous contemporains et peut-être même encore aujourd'hui pour nous philosophes, c'est que il faudrait réussir, et ce n'est pas un exercice facile, il me semble, à faire la distinction entre les raisons historiques qui ont fait condamner Socrate et, comme ça a été rappelé hier, qui sont un faisceau de raisons politiques, intellectuelles aussi, donc qui ont été mises en évidence. Et puis on a un second point de vue qui est la réécriture de ces chefs d'accusation par ceux qui ont succédé à Socrate, ses disciples, Platon, Xénophon, mais aussi les pères de l'Église, et peut-être même aussi des lectures tout à fait contemporaines du procès de Socrate. Je pense à Nietzsche, à Foucault, éventuellement même Lacan. Et donc le partage entre ces réécritures du procès de Socrate et les raisons historiques qui ont mené à sa condamnation, sont pas toujours faciles non plus pour nous à articuler.
D'autant qu'il faut distinguer tout de suite l'impiété de l'athéisme. Parce qu'aujourd'hui on parle d'athéisme, l'impiété quelque chose de différent qui n'a peut-être plus forcément de sens pour nous d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et c'est une très bonne manière, je trouve, de faire une première distinction. Le procès pour impiété, l'accusation d'impiété n'est pas quelque chose qui pourrait s'apparenter à notre blasphème, par exemple, ou à un procès de libre penseur qui voudrait s'attaquer à la religion en tant qu'organe ou en tout cas organisation sociale qui serait déracinée du politique. Pas du tout. On est dans un contexte de l'Athènes classique où le procès pour impiété, c'est aussi un procès contre certaines pratiques, non-respect des pratiques, je dirais. Alors, évidemment, Socrate s'en défendra. Il a toujours dit qu'il a toujours respecté, d'une certaine manière, les rites et pratiques qui étaient en usage dans sa cité. Mais on a, effectivement, un certain nombre d'indices qui nous sont aussi donnés par Platon et Xénophon, en plus de ces accusateurs, qui nous permettent de dire que Socrate joue, entre en dissidence, en tous les cas, avec la religion de l'époque.
C'est-à-dire que là aussi, il faut distinguer deux choses. Il y a le fait de ne pas croire aux divinités en vigueur à l'époque et le fait de croire en d'autres divinités, celles que Socrate aurait inventées. On parle à l'époque de daimon, ce qu'on pourrait traduire par démon, qui sont quoi, l'équivalent des dieux socratiques. Comment on les définit, Olivier Renaud ?
Oui, c'est une question compliquée. Et on revient du coup aux deux premiers chefs d'accusation qu'on a notés, la non-reconnaissance des dieux de la cité et l'introduction de nouvelles divinités. Avec peut-être une petite nuance qu'il faudrait faire entre les dieux et les divinités, les daimoniai, les daimonia de Socrate. Bon, d'abord, il s'agit pas vraiment d'une question de croyance. Il s'agit plutôt, encore une fois, d'une question de pratique et d'une manière qu'on a d'envisager, on va dire, la théologie dans son inscription à la fois métaphysique, physique, cosmologique et éventuellement, enfin, et aussi politique. Donc, pour en revenir aux deux chefs d'accusation, c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer que Socrate ne reconnaît pas les dieux de la cité, mais qu'il n'en introduirait c'est pas ça. De nouvelles. Donc, les deux chefs d'accusation sont complètement distincts. Logiquement, en tout cas. Alors, on sait que ce n'est pas le cas depuis l'énuée d'Aristophane, où Socrate est effectivement présenté comme celui qui, à la fois, va se jouer, va ironiser sur les dieux de la cité et introduire effectivement de nouvelles divinités. Alors, les divinités, dieux, c'est parfois la même chose pour les Athéniens. Effectivement, on pourra faire une différence avec les textes platoniciens entre le daimon de Socrate, son démon, et les dieux olympiens auxquels on est habitué. Mais enfin, quand on lit les dialogues de Platon, il y a Hadès, il y a Asclépios, il y a Zeus, il y a Cronos, il y a tous les dieux classiques qu'on trouve aussi dans la mythologie.
Alors écoutons un extrait des Nuées d'Aristophane, c'est 24 ans avant le procès de Socrate, en 423. Pour mémoire, nous avons donc ce personnage de Strepsiade qui va rendre visite à Socrate, sophiste bien connu dans la pièce en tout cas, mais aussi à l'époque, au moment historique où la pièce se situe, qui se trouve dans une espèce de nacelle au-dessus des hommes et qui daigne descendre pour rencontrer Strepsiade. Celui-ci va lui rendre visite parce qu'il a beaucoup de dettes et il essaye d'entourlouper ses créanciers pour ne pas le rembourser. Il se dit « mais qui peut m'apprendre à parler de manière à entourlouper mes créanciers ?» C'est Socrate, donc il va le voir et Socrate lui explique qu'il est, celui-ci est bien naïf de penser que Zeus existe. Il faut mesurer qu'à l'époque, dire que Zeus n'existe pas, là vraiment, pour le coup, peut-être que ça mérite un procès, vous nous direz ensuite, Olivier Renaud.
Salut, Strepsiade !
Homme des anciens temps,
vieillard ardent à poursuivre les discours chers aux muses.
Et toi, Socrate !
Pontife des plus subtils radotages, dis-nous ce que tu désires.
Car à nul autre nous ne prêterions l'oreille parmi les sophistes transcendants d'aujourd'hui.
Pour ta démarche superbe dans les rues. Ta façon de jeter les yeux de côté.
Les mots que tu endures à marcher pieds nus.
Ta confiance en nous et ton air imposant.
Ô terre, quelle voix! Quelle est sacrée, auguste, prodigieuse!
C'est que vois-tu, elles seules sont déesses. Tout le reste n'est que sornette.
Mais Zeus, selon vous, voyons au nom de la terre, Zeus, l'Olympien, n'est pas Dieu?
Qui ça, Zeus? Trêve de baliverne, il n'existe même pas, Zeus.
Que dis-tu? Mais qui fait pleuvoir? Explique-moi cela avant tout.
Elles, sans doute, les nuées. Et je t'en donnerai des preuves formelles. Voyons, quand l'as-tu jamais vu faire pleuvoir jusqu'à ce jour, sans nuées? Il faudrait pourtant qu'il fît pleuvoir par un ciel serein et sans qu'elles fussent là.
Eh oui, par Apollon, voilà certes pour la question qui nous occupe un bon argument que tu apportes là. Et moi qui jusqu'ici croyais bonnement que Zeus pissait à travers un crible.
Non.
Mais qu'il est contraint, sinon Zeus, de se mouvoir.
Du tout. C'est un tourbillon éthérien.
Mais voilà ce que j'ignorais, que Zeus n'existe point. Et qu'à sa place, tourbillon règne aujourd'hui.
Aristophane met en scène un Socrate comique, burlesque quasiment, en tout cas certainement ironique. Alors voici un autre type de texte qui semble dire la même chose, c'est-à-dire que même quand on ne moque pas Socrate, il affirme quand même que Zeus n'existe pas. Écoutez cet extrait de l'Apologie de Socrate, interprété par Georges Clès.
Socrate. Mélétos, comment prétends-tu que je m'y prends pour corrompre les jeunes gens? D'après le texte de l'action judiciaire, c'est clair, en leur enseignant à reconnaître non pas les dieux que la cité reconnaît, mais au lieu de cela, des divinités nouvelles. C'est bien en enseignant cela que, prétends-tu, je les corromps, n'est-ce pas? Mélétos. Oui, absolument. Voilà bien ce que je prétends. Socrate. En ce cas, Mélétos, au nom de ces dieux mêmes dont il est question, exprime-toi avec plus de clarté encore pour nous éclairer, moi et les gens qui sont ici. Pour ma part, en effet, je ne puis débrouiller ceci. Que prétends-tu? Que j'enseigne à ne pas reconnaître que certains dieux existent? Dans ce cas, je reconnais qu'il y a des dieux. Je ne suis en aucune façon un athée, et je ne suis pas non plus coupable à cet égard. Ou seulement que je reconnais l'existence de dieux qui sont non pas ceux que reconnaît la cité, mais d'autres. Et dans ce cas, tu portes plainte contre moi parce que ce ne sont pas les mêmes dieux? Ou bien est-ce que tu soutiens que, personnellement, je ne reconnais absolument aucun dieu et que j'enseigne aux autres à prendre le même parti? Mélétos. Oui, voilà ce que je soutiens, que tu ne reconnais absolument aucun dieu. Socrate, qu'est-ce qui te fait dire cela, étonnant Mélitos? Est-ce que je ne reconnais même pas, comme le font les autres gens, que le soleil et la lune sont des dieux? Mélitos, par Zeus, juge, il ne les reconnaît pas pour tels, puisqu'il dit que le soleil est une pierre et la lune une terre.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h17. On aimerait que le procès de Socrate soit aussi clair qu'une partie de Cluedo, Olivier Renaud. On aimerait pouvoir affirmer que le colonel Moutarde a assassiné son hôte dans le salon à l'aide d'un chandelier. Or, les pièces à conviction que nous venons d'entendre, à la fois la nuée d'Aristophane et puis un extrait de l'apologie de Socrate, montrent que les chefs d'accusation sont en fait beaucoup plus compliqués, peut-être ambigus, qu'il n'y paraît. Bah, je vous pose la question clairement, pensez-vous que Socrate soit vraiment coupable d'impiété?
Alors la réponse sera forcément aussi compliquée, et les deux extraits qu'on vient d'entendre le montrent assez bien. Si on revient sur le texte d'Aristophane, on a effectivement un Socrate burlesque qui est mis en scène dans sa nacelle, dans les hauteurs, et le cœur des nuées arrive, impressionnant, Strepsiade. Il s'agit dans la pièce d'Aristophane d'abord de travailler sur une identification que Socrate essaiera de réfuter, et je laisserai la parole à la défense pour demain.
Ça, ce sera demain, oui, avec Dimitri.
Mais une identification entre la sophistique d'une part, un type de science, un type de sophia, un type de savoir qui est, on le voit bien, intimement lié avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la physique ou la cosmologie. Il y est question de nuées, de chaos, de tourbillons, de pluie, et dans le texte de l'Apologie, de lune et de soleil. Et ce qu'on reproche effectivement à Socrate, c'est de produire, en tout cas de relayer, c'est comme ça en tout cas que les Athéniens recevaient ce type de savoir, de relayer un savoir sophistique ou celui des physiologues, par exemple celui d'Anaxagore, qui avait été embêté en son temps aussi, en tout cas menacé, à travers Périclès. Et ce type de savoir qui est accusé, c'est justement celui de la confusion entre des divinités religieuses et des principes qu'on pourrait appeler aujourd'hui cosmiques. C'est ce contre quoi d'ailleurs Platon va lutter, et jusque dans ses derniers dialogues, il faudrait...
Donc là, Platon, pas Socrate.
Platon cette fois, il suffirait de lire le début du livre 10 des lois qui reprend l'accusation justement de corruption de la jeunesse et qui essaie de produire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une théologie rationnelle, qui est aussi une cosmologie, et où Platon, et ce sera un des arguments de défense de Socrate, essaie de montrer qu'il n'y a absolument pas contradiction entre les divinités telles qu'elles ont cours dans l'Athènes classique, et puis les principes cosmiques et d'organisation du monde tel que nous le connaissons, physique, et qui donne lieu justement à ce savoir si spécifique qu'est celui de Socrate.
Mais alors, pourquoi est-ce que ça pose un tel problème à Mélétos et aux citoyens athéniens, cette soi-disant impiété de Socrate? Est-ce parce qu'il ne respecte pas les lois de la cité et que les lois imposent ou veillent au respect d'une piété, d'une pratique religieuse? Ou est-ce parce qu'il redoute qu'à travers cette impiété s'exprime un savoir qui les effraie et qui remet en question l'ordre dans lequel ils vivent?
Oui, je crois que vous avez très bien dit les deux raisons, et à mon avis, elles sont tout à fait concomitantes. Je rebondis finalement sur la dernière. Il est certain que le discours de Socrate lui-même n'est pas reçu d'une manière très claire, en tout cas c'est ce que l'on voit dans l'Apologie de Socrate, puisque il est lui-même accusé par Mélétos de, et il reprend une expression assez courante pour désigner justement les physiologues, ceux qui s'occupaient de physique. Il s'agit de mettre la terre sans dessus dessous, et de chercher dans les profondeurs pour reprendre un texte de Pindare qui est cité dans le Théétète. Donc en fait, la parole de Socrate est vécue comme un véritable dissensus, à la fois en ce qu'il propose un nouveau type de savoir dans l'espace public, et aussi parce que ce type de savoir, alors si on l'appelle théologie rationnelle, nous commet, nous oblige à réviser un ensemble de principes sur lesquels la politique athénienne est fondée.
C'est peut-être incompatible avec la démocratie, tout simplement.
C'est une question importante, effectivement, puisque dans plusieurs textes de Platon, et je pense notamment aux Politiques, la liaison entre le règne de Cronos ou le règne de Zeus est intimement liée avec un certain nombre d'organisations, tout simplement politiques, oui, ça, c'est clair.
Alors avant qu'on en arrive à l'autre chef d'accusation, la corruption de la jeunesse, et là on voit ça, en quoi ce procès a une dimension aussi sulfureuse, que nous n'occulterons pas. Encore un point sur le discours de Mélétos qui a ouvert cette émission. C'était un extrait d'une émission de radio justement de 1955, mais il me semble que ce qu'il disait était très précis et fidèle au chef d'accusation prononcé contre Socrate, en tout cas ce qu'on peut en connaître historiquement. Il disait « Mais Socrate n'a jamais respecté les lois de la cité ». Alors ça, sans commencer à donner la parole à la défense, même historiquement, on sait que c'est faux, Olivier Renaud. C'est-à-dire que Socrate a parfois agi au nom du respect des lois de la cité, parfois contre son propre intérêt.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que les textes de nature apologétique qu'on verra fleurir après son procès, jusqu'à 40 ans après, vont insister énormément sur le paradoxe qu'il y a à accuser Socrate de ne pas respecter les lois, alors que il va devenir, en un certain sens, un citoyen modèle, que ce soit sur le champ de bataille ou que ce soit lors des quelques occasions qu'il a eues d'avoir une fonction politique, par exemple. Les deux exemples qu'il prendra lui-même, là encore, ce sera un argument de défense, mais qu'il prendra lui-même dans l'Apologie de Socrate, c'est l'épisode du procès des généraux de la bataille des Arginus en 406, où il refusera, en tant qu'épistate, d'organiser le vote en évoquant justement le respect des lois pour essayer d'empêcher la condamnation des généraux.
Voilà, c'est ça qui a en jeu. C'est là, on veut condamner certains généraux qui ont pourtant brillé par leur combat lors d'une bataille, et Socrate refuse de mettre cette décision, de faire voter cette décision.
C'est ça.
Parce qu'il
exactement.
A peur qu'on les tue, et il pense que par respect des lois, il ne veut pas qu'on tue des généraux.
Voilà, et il invoque effectivement le respect des lois. Il est très difficile de savoir si ce procès brouille ou en tout cas. Ne cadre pas avec la loi en vigueur, ce serait assez étonnant d'ailleurs, mais enfin en tout cas c'est la loi que Socrate invoque pour cet épisode. Il y a un autre épisode qui est celui de la désobéissance en 403 au commandement des 30 d'aller chercher un démocrate qui s'appelle Léon de Salamine avec trois autres citoyens.
Donc là, c'est pas la courte période des dites des 30 tyrans où des oligarques prennent le pouvoir à la fin de la guerre entre Athènes, enfin la guerre dite du Péloponnèse où Athènes perd contre Sparte. Pendant quelques mois, les tyrans prennent le pouvoir et là, Socrate refuse d'obéir à un tyran.
Il refuse d'obéir aux tyrans et dit qu'il trouve le courage de rentrer chez lui plutôt que d'aller dénoncer et aller chercher Léon de Salamine pour le condamner à mort. Donc cette désobéissance, en fait, on voit bien qu'elle est en vertu d'une loi supérieure, éventuellement d'ailleurs démocratique, puisque là
c'est non tyrannique en tout cas.
En tout cas non tyrannique, et c'est cette obéissance à des lois supérieures que Socrate va pouvoir invoquer justement pour se dédouaner de cette accusation de ne pas respecter les lois. Et puis il y a peut-être un exemple intéressant à la fin du Criton, et je trouve qu'il est parlant pour nous, même aussi pour nous contemporains. Criton, dans le dialogue éponyme de Platon, lui dit « Tu ne respectes pas la volonté de tes amis, en tout cas les liens amicaux et les liens familiaux, et tu devrais t'enfuir, tu devrais... »
On est à la veille de sa condamnation à mort.
Voilà, à la veille de son exécution. Il lui est possible de s'enfuir, et Socrate invoque encore une fois les lois de la cité en invoquant un pacte qu'il a fait avec les lois, sa mère, dit-il. Et il refuse d'obéir aux injonctions de Criton, justement en vertu des lois, même si elles sont injustes.
C'est ça, il préfère subir le sort injuste des lois qui s'appliquent à lui, à savoir la condamnation à mort, que de fuir la cité athénienne et donc d'enfreindre les lois.
Tout à fait. Donc même finalement au nom de valeurs qui seraient extrêmement importantes, parce que ce n'est pas que Socrate les refuse, ces valeurs de l'amitié ou de la famille, pas du tout. Mais en revanche, dès qu'il s'agit d'enfreindre les lois, même injustes, il n'en est pas question.
Voilà, c'est important d'entendre ces points, parce que, non pas pour donner la parole à la défense avant d'avoir fini les accusations, mais pour bien comprendre ce que la nature même de ces accusations faites à Socrate, c'est-à-dire que si Socrate se défend d'enfreindre la loi, c'est peut-être que l'accusation elle-même ne tient pas vraiment, ou que ce n'est que l'alibi d'une autre accusation. Alors, venons-en au fait. Nous avons commencé l'émission en la citant, il faut maintenant qu'on examine cette accusation, celle de pervertir la jeunesse. Écoutons comment Xénophon, dans son Apologie de Socrate, parce que c'est lui aussi un contemporain qui écrit une Apologie de Socrate qui n'est pas de Platon, décrit la façon qu'a Mélétos d'accuser Socrate de pervertir la jeunesse. C'est donc la parole d'abord à Juliette Gréco.
Accusé de vol de cœur, de crime d'amour et d'escroquerie sentimentale. Aujourd'hui, pour mon malheur, c'est à mon tour de faire les frais du tribunal. Voyez, messieurs, je pleure de vraies larmes de femme. Ne m'accable pas. Tout est contre moi, et vous, mon avocat, ne riez pas.
Mélétos, tu m'accuses de pervertir la jeunesse. Sans doute nous savons ce qui constitue la perversité des jeunes gens. Nomme-en, si tu en connais, qui, pieux d'abord, sage, économe, modéré, tempérant, laborieux, soit devenu par mes leçons impie, violent, ami du luxe, adonné au vin, efféminé, qui enfin se soit livré à quelque passion honteuse. Oui, repartit Mélétos, j'en connais que tu as décidé à suivre tes avis plutôt que ceux de leur père, de leur mère. J'avoue, répliqua Socrate, qu'ils ont suivi les avis que je leur donnais sur l'instruction morale de la jeunesse. C'est ainsi que pour la santé, nous suivons les conseils des médecins plutôt que ceux de nos parents. Vous-même, Athéniens, dans les élections de généraux, ne préférez-vous pas à vos pères, à vos frères, à vous-même, les citoyens, jugés les plus habiles dans la profession des armes? Tel est l'usage, repartit Mélétos, et le bien général le demande. Mais, ajouta Socrate, toi, Mélétos, qui vois que, dans tout le reste, les plus habiles obtiennent préférence et considération, explique comment tu peux solliciter la mort de Socrate, précisément parce qu'on le juge habile dans une partie essentielle, l'art de former l'esprit.
Olivier Renaud, indépendamment de la manière qu'a Socrate de se défendre, sans avocat, contrairement à ce que chante Juliette Gréco, même si la chanson tombe parfaitement avec la situation qu'on est en train d'écrire, ou plutôt des avocats ultérieurs, hein, Platon, Xénophon, même 10 ans après, des textes sont écrits pour au contraire essayer de défendre Socrate qui est déjà mort. Sur quoi repose l'accusation de corruption de la jeunesse? C'est quand même une accusation grave. Est-ce que c'est simplement dans ces dialogues ou est-ce qu'il y a des faits avérés?
Alors, la corruption de la jeunesse, d'abord, c'est un chef d'accusation finalement relativement ancien qu'on peut faire remonter déjà aux Nuées, puisque quand Strepsiade vient voir Socrate, c'est pour amener son fils, pour qu'il y apprenne ce qu'on enseigne justement dans cette école un peu étrange, dont une des divinités est Glota, la langue, et il se trouve que le fils de Strepsiade sera tellement bien entraîné par l'école socratique qu'il se retournera lui-même contre son propre père. Donc ça, c'est un premier type de corruption. Enfin, corruption, on retrouve l'accusation d'impiété, on enseigne à des jeunes gens dont l'âme est malléable, qu'il existe des divinités dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Et puis surtout, on on montre que cette corruption de la jeunesse, elle va de pair avec une subversion des valeurs qui ont cours dans la cité, et par exemple, se monter contre son propre père, contre les valeurs de la cité, contre les lois générales. C'est cette accusation de corruption, et on le voit bien en fait dans l'accusation qui est faite, dans la lecture qui a été faite de Xénophon, elle va peut-être aussi beaucoup plus loin, au sens où il ne s'agit pas seulement d'une accusation d'impiété, il s'agit aussi d'une corruption en un sens politique du terme, ça c'est évident. Socrate ne fréquentait que, malgré tout, des jeunes gens beaux et bien nés. En leur enseignant peut-être des valeurs qui étaient politiquement incorrectes par rapport à la cité athénienne en cours. Et puis enfin, il y a une dernière dimension que je trouve très intéressante dans le texte de Xénophon, et là, il y aura probablement un désaccord entre Platon et Xénophon. Socrate évoque ici une accusation, on va dire, de corruption, on va dire, morale, il s'agit quasiment d'une affaire de mœurs. On a entendu le terme d'efféminé, par exemple. Et ça, c'est une accusation. Alors, il est très difficile de savoir si c'était une accusation réelle, d'un point de vue historique, en tout cas, en 399. Il est clair que cela fait partie du sens des accusations portées contre Socrate par les deux philosophes que sont Platon et Xénophon.
Le texte disait, Socrate disait dans la bouche de... Enfin, Xénophon faisait dire à Socrate, « Nommes-en, cher Mélétos, si tu en connais, des jeunes gens qui, pieux, d'abord sages, économes, modérés, tempérants, laborieux, soient devenus par mes leçons impies, violents, amis du luxe, adonnés au vin, efféminés, qui enfin se soient livrés à quelques passions honteuses. » Il y a quand même une gradation ici, oui, qui montre qu'en effet, cette corruption de la jeunesse n'est pas simplement politique, n'est pas simplement morale, mais peut-être vraiment presque physique. On parle ici de débauche, que ce soit à travers l'alcool, ou j'imagine en filigrane une forme de sexualité quand même.
Oui, tout à fait, et je crois que la question est liée. Alors, sur la gradation, malgré tout, j'ai presque envie de dire que la totalité des accusations qui viennent d'être mentionnées ont néanmoins une résonance politique qu'il ne faut pas oublier. Le personnage qu'on entend derrière toutes ces accusations, c'est évidemment Alcibiade.
Et qui est Alcibiade ?
Alcibiade, donc né en 450, un des principaux instigateurs lors de la guerre du Péloponnèse d'une expédition, l'expédition de Sicile, qui a mal tourné, et qui a été impliqué dans des affaires, et on le voit bien maintenant, le lien avec l'accusation d'impiété, dans des affaires religieuses, entre guillemets, qui sont la profanation des Hermès, donc ces bornes qui permettaient de délimiter sur les routes des frontières, et qui étaient des stèles, avec des têtes et des phallus aussi. Donc ces Hermès ont été profanés, ils ont été mutilés. Et il y a eu un autre scandale aussi, qui est très lié avec ce que vous avez évoqué sur une ambiance de luxure, de vin, d'ivresse, qui est la parodie des mystères d'Éleusis. Ces événements ont eu lieu en 415, et il s'agit de véritables scandales à la fois religieux, politiques et moraux. Et la figure d'Alcibiade est évidemment centrale. Lorsqu'on sait le lien que Socrate a avec Alcibiade, puisqu'il se présente comme son amoureux.
Dans le banquet notamment.
Dans le banquet. Alors, son amoureux, au sens actif ou passif, c'est une autre question. Et Platon en fera d'ailleurs tout un enjeu de son dialogue. En tous les cas, le lien qu'il y a entre Socrate et Alcibiade fait que le chef d'accusation de corruption de la jeunesse devient extrêmement concret avec ce personnage.
Alors écoutons Alcibiade, puisque la grande chance d'être à la radio, c'est que nous pouvons entendre par la voix elle-même des personnages ces chefs d'accusation. Alcibiade, c'est donc un extrait du banquet de Platon, qui à la fois accuse Socrate et en même temps regrette que les accusations qu'on profère à son encontre ne soient pas complètement vraies, parce que finalement, dit-il, lui qui quand même épris de Socrate, il se dit, mais il est faux de penser que Socrate soit absolument épris de la jeunesse et des beaux corps. En réalité, pour lui, la beauté n'est rien et la connaissance est tout. Écoutez.
Socrate, est-on peu plus pareil à ces Silènes qui se dressent dans les ateliers des sculpteurs et que les artisans représentent avec des flûtes? Si on les ouvre par le milieu, on s'aperçoit qu'ils contiennent des figurines des dieux.
Tu n'es pas un joueur de flûte. Et pourtant, tu provoques le même effet. Et c'est bien plus extraordinaire. En proférant de simples paroles, tu es capable de charmer les êtres humains, de nous mettre dans un état de possession. Ce Silène m'a bien souvent mis dans un tel état qu'il me paraissait impossible de vivre comme je le fais. Et cela, Socrate, tu ne diras pas que ce n'est pas vrai. En ce moment encore, si j'acceptais de lui prêter oreille, je ne pourrais pas rester insensible et j'éprouverais les mêmes émotions. Sachez-le bien, aucun de vous ne connaît vraiment cet homme-là. Vous observerez qu'un penchant amoureux mène Socrate vers les beaux garçons et ne cesse de tourner autour d'eux. Il est troublé par eux. Laissez-moi vous dire que le garçon soit beau, cela ne l'intéresse en rien. Et même, il a un mépris inimaginable pour cela. Et nous ne sommes rien à ses yeux, je vous l'assure.
Formidable, Alcibiade, interprété par Pierre-Louis Calixte dans une adaptation du Banquet de Platon par France Culture, diffusée en 2010. Actif ou passif, je ne sais pas, Olivier Renaud, mais en tout cas victime, ça c'est sûr. Et en se déclarant, en se désignant comme victime de Socrate, il désigne Socrate comme coupable.
Ah oui, tout à fait. Et là, il est vraiment coupable, coupable par ce qu'on a appelé plus tard son érotique. Il s'agit de faire la chasse aux jeunes gens. Socrate reprend cette métaphore de manière très courante, que ce soit chez Platon ou chez Xénophon d'ailleurs. Hein. Et là, ce qu'on a entendu dans cet extrait, on pourrait presque retenir deux thèmes, en tout cas deux principaux thèmes. D'abord, le fait que Socrate passe son temps à séduire ces jeunes gens, à les charmer. Alors, certes pas avec un attrait physique, on sait que Socrate était particulièrement laid, mais nous dit le banquet de Platon, des discours tout simplement, psiloi logoi, avec sa seule voix, son seul discours. Et puis le second thème qui me paraît important, c'est la phrase qui dit à la fin, nous ne sommes rien pour lui. Et là, de fait, on peut comprendre que ceux qui sont tombés dans les raids de Socrate, de sa chasse aux amoureux, se sentent victimisés, victimes.
Ils ont le cœur brisé.
Ils ont le cœur brisé. Et ils se sentent tout simplement trahis par rapport à l'espoir qu'a fait naître en eux ce que Socrate avait cru éventuellement reconnaître, au moins à un moment, comme potentialité chez eux. La figure d'Alcibiade est encore une fois importante. On a un dialogue, alors qui n'est peut-être pas de Platon, mais peu importe, l'Alcibiade, où justement il s'agit, alors que Alcibiade est sur le point de commencer sa carrière politique, il s'agit pour Socrate de le mettre à l'épreuve, de le mettre à l'examen. Et Socrate ne rechigne pas à utiliser justement tous les moyens pour que cet examen soit efficace et marque cette figure d'Alcibiade, et il va le réfuter de telle sorte qu'Alcibiade, à la fin du dialogue, est bien contraint de dire qu'il n'en sait rien, qu'il n'a pas la science du gouvernement. Donc cette érotique socratique, il est certain que cela joue dans le chef d'accusation, même si cette dimension érotique n'est pas mise en avant explicitement par Mélétos dans le procès de 99, pour, en tout cas, c'est ceux qui vont en prendre la défense, Platon et Xénophon en premier lieu, il est vrai que cette érotique socratique est quelque chose qui est vu comme comme une menace. Ça a été compris comme un danger. Et cette érotique socratique s'est forcément retournée contre lui.
Reste que cette accusation-là est d'ordre moral et ne peut pas faire l'objet d'une accusation juridique de la part de la démocratie athénienne.
Oui.
Sinon, on serait en plein mélange entre vie privée et vie publique.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Alors ensuite, sur les procès, il y a eu malgré tout des procès disons, une forme de corruption morale. Et puisqu'on parlait de dimension sexuelle, on a un certain nombre de discours, dont le réactionnaire est Chine, sur la manière dont certains érastes avaient pu corrompre de jeunes aristocrates aimés. Mais malgré tout, encore une fois, dans la défense de la figure de Socrate, cette accusation est très très vite détournée et par Platon et par Xénophon. Comme on l'a entendu dans le texte, Socrate ne cherche que la dimension de la connaissance. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
Oui, parce que certains dialogues montrent que pas toujours. Il est très sensible aussi au charme physique du Charmide et autres.
Alors, tout à fait, mais c'est immédiatement, dès le prologue, pour dire qu'on va déshabiller son âme et laisser le manteau de Charmide là où il est, son chitone, qui recouvre effectivement son corps qui suscite beaucoup d'admiration chez les compagnons de Socrate. Mais justement, cette diversion de l'érotique socratique, elle permet, je pense, de mieux comprendre pourquoi à la fois on est dans une accusation de corruption de la jeunesse qui est liée plutôt à l'introduction de nouvelles divinités et à un nouveau savoir, et dont une des conséquences pourrait être effectivement une corruption de type moral et éventuellement sexuel. Mais ce ne serait pas le fait de Socrate, ce serait le fait de ces jeunes gens qui n'ont pas réussi à faire place à la modération dans leur âme, typiquement Alcibiade, ou encore, puisqu'on sait ce qu'ils sont devenus, Charmide, Calliclès, Thrasymaque, Critias, et toutes ces figures qui sont autant de gens qui ont été piqués, blessés par Socrate.
Mais là, on en vient peut-être à l'accusation déguisée ou l'accusation sous-jacente, puisqu'on a évoqué les trois chefs d'accusation principaux, la culpabilité d'impiété, le fait de ne pas croire au dieu de la cité, le fait d'être coupable d'inventer de nouvelles divinités ou de croire en d'autres divinités que celles de la cité, et enfin la corruption de la jeunesse, les trois étant liés, on l'a vu dans les textes que nous avons entendus. Est-ce que derrière ces chefs d'accusation ne se trouve pas en fait un motif d'accusation qui est celui de la dissidence absolu que représente le discours philosophique dans la cité athénienne?
Oui, dissidence, et donc c'est un terme qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans une dimension exclusivement historique, je dirais, et puis pour ce qui nous occupe aujourd'hui, plus philosophique. Cette dissidence, encore une fois, je la trouve très concrète du point de vue du personnage de Socrate, d'abord parce que il se présente lui-même comme le temps de la cité, celui qui va
T-A-O-N.
Voilà, qui va piquer à chaque fois cette cité qui est Athènes pour son propre bien, dira-t-il, mais n'empêche que ça pique, ça fait mal, et on a envie de s'en débarrasser. Il se compare lui-même dans d'autres dialogues, dans le Ménon, à une torpille, à une raie qui pique, hein, qui fait mal. Justement par ses discours et par ses incessantes réfutations. Et est-ce que ce qu'on peut rappeler, en fait, et c'est ce que Socrate va rappeler déjà dans l'Apologie, c'est que s'il s'est mis à dos l'ensemble de la cité, et ce de manière quasiment indifférenciée, c'est qu'il les a tous attaqués, les citoyens. Il les a tous attaqués dans leur prétention au savoir. Qu'il s'agisse des poètes, comme le Ion de Platon nous le montre, qu'il s'agisse des hommes politiques, qu'il s'agisse des généraux, par exemple dans le Laques, qui sont censés être spécialistes de la vertu du courage, qu'il s'agisse de d'artisans. Bref, tous les corps de la cité sont, en un sens, accusés par Socrate de ne pas savoir ce qu'ils font.
Donc en fait, c'est Socrate qui accuse les autres. Socrate est accusé parce que c'est lui qui accuse tout le monde.
Alors tout à fait, et il va accuser d'ailleurs ses jurés dans l'Apologie de Socrate de ne pas poursuivre le seul bien qu'ils devraient poursuivre, à savoir le bien de leur âme. Et en un sens, le jury va se retrouver coupable, non pas tant de condamner Socrate, on peut dire que c'est accessoire par rapport au crime qui est commis, mais c'est un crime littéralement de la cité contre elle-même.
Et ça, c'est absolument inaudible de la part de la cité. En fait, ce que ce procès révèle, c'est la propre fragilité de la démocratie athénienne qui a besoin de désigner Socrate comme bouc émissaire pour mieux cacher ou tenter de colmater les brèches qui sont apparues en fait depuis des décennies, parce qu'en fait les problèmes de la démocratie athénienne viennent notamment de la défaite de la guerre du Péloponnèse et même remontent encore avant.
Voilà, tout à fait, et je crois que c'est important aussi pour comprendre l'actualité du personnage de Socrate et puis éventuellement toutes ces réécritures et la manière dont ce personnage aussi nous parle encore aujourd'hui alors qu'on n'est plus dans l'Athènes. Alors certes, le procès a lieu, et vous l'avez rappelé, lorsque Athènes est extrêmement fragile, après la guerre du Péloponnèse, et même finalement des affaires de religion, alors que Athènes était relativement ouverte justement à un discours public, théologique, introduction de nouvelles divinités. Finalement, en 399, il vaut peut-être mieux ne pas trop creuser la question. Et c'est vrai que ce discours de parésia,
c'est-à-dire de discours vrai.
Voilà, de discours vrai et franc, effectivement, n'est pas bienvenu dans une cité qui est fragilisée. Et de la même manière, pour nous aujourd'hui, la figure d'un intellectuel contestataire, ou en tout cas, bon, contestataire pas nécessairement, mais en tout cas qui prend un contrepoint dans sa manière de présenter des problèmes, ou dans sa manière d'utiliser un vocabulaire qui nous semble commun, mais en réalité qui ne l'est pas, parce que les choses n'ont pas le même sens lorsqu'elles sont évoquées par des démagogues ou des sophistes ou des citoyens, et par des philosophes, forcément, ça fragilise, plus que ça ne questionne, enfin, ça fragilise et ça questionne les valeurs de la cité dans laquelle on vit.
Mais ça, c'est un sujet extrêmement délicat et qui est en effet posé par le procès de Socrate, parce que ce que vous venez de dire, la manière que peut avoir un philosophe de s'emparer d'un discours qui préexiste pour lui donner un autre sens et en cela exercer une forme de subversion au sein de la cité, peut aussi être utilisée par les philosophes comme un alibi. C'est-à-dire aussi brandir une parole en la présentant comme vraie, et parce qu'elle est dérangeante, serait vraie, c'est aussi une manière, une posture intellectuelle qui existe encore aujourd'hui et qui finalement ne correspond pas à celle de Socrate. Socrate a un discours vrai et sa postérité le montre aujourd'hui. Il est plus difficile de savoir autour de nous, en regardant autour de nous, aujourd'hui en 2017, qui pourrait jouer cette posture-là.
Oui, c'est tout à fait vrai, et peut-être qu'un des moyens, parce que je ne pourrais pas répondre à la question, évidemment, mais un des moyens peut-être de comprendre l'actualité de Socrate, c'est de voir que Socrate, malgré tout, est homogène par rapport à sa propre cité comme figure de la contestation. Je veux dire par là qu'il est citoyen d'Athènes, et jamais il ne dira qu'il est hors de sa cité, il est dedans, et c'est un personnage qui est extrêmement public, qu'on peut voir partout, qui est disponible à tous, et qu'on voit à l'agora, dans les gymnases. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une figure de la contestation qui prendrait un point de vue, on va dire, extérieur, ou surplombant, en tout cas hétérogène par rapport aux valeurs qu'on voudrait contester, et qui sont des points de vue de contestation qui sont parfois nécessaires. Mais bon, Socrate n'est pas une femme, ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un étranger non plus. Et peut-être que ces figures de la contestation, on les comprend mieux dans notre actualité lorsque on se mesure justement à la différence qu'était Socrate, qui lui-même n'a qu'une chose en tête, c'est en tout cas c'est la cité d'Athènes, telle qu'il le dit du moins lors de son procès.
Et dont il respecte les lois jusqu'au bout.
Et dont il respecte
les
lois.
À aucun moment, il l'appelle à transgresser ces lois-là, y compris lors de l'expression de critiques très fortes qu'il exprime à travers...
Tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que Socrate puisse être un bon exemple de désobéissance civile. On pourrait, mais au prix d'une certaine distorsion historique.
Listen, did you hear me say, have you felt yourself today? You thought that you were right, but you've been up all night. Tell me once again right now, if you thought they would allow you to be free to live your life the way you wanted to. Stand up and be judged right here today. Now there is nothing you can say that can help you anyway. All this talk you listen to. Did you hear the witness say that you didn't try to run away when you were clearly seen to be a human being?
Stand up and be judged. C'est ce qu'a fait Socrate aujourd'hui. Hein. Grâce à vous, Olivier Renaud, vous avez bien explicité les accusations adressées à l'encontre de Socrate. On prendra sa défense demain. Mais merci en tout cas d'avoir joué ce jeu brillamment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Platon, la médiation des émotions, disponible chez Vrin, ainsi qu'une explication de lecture des livres 6 et 7 de La République chez Ellipse.
Now there is nothing more to say that can protect you anyway, or that this cold wants to hear from you.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie à 10h53, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie et son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien le 4 mai dernier, disparaissait le philosophe Ruven Augien et pour lui rendre hommage, Monique Cantos-Perber, amie du philosophe avec lequel elle a travaillé sur la morale et l'éthique, organise ce jeudi, le 28 septembre, dans le grand auditorium de la BNF, de 17h30 à 20h, une rencontre en son honneur. Alors c'est une rencontre qu'elle a voulu vivante, en compagnie de ceux qui l'ont côtoyée, artistes, penseurs, étudiants et journalistes.
C'est un hommage qui ne se veut pas, un hommage funèbre. C'est une façon de reconnaître le caractère très vivant de la personnalité de Ruven Augien et de sa pensée, ainsi que l'influence qu'elle continue à exercer. Donc tous ceux qui s'exprimeront évoqueront la présence de Ruven Augien et ce qu'il a, d'une certaine manière, changé dans le monde.
De sa formation entre sociologie et philosophie à sa morale minimale, en passant par le cinéma et sa méta-éthique, l'idée est donc de tracer la pensée de Ruven Augien, d'en faire le portrait, comme ici le rappelle encore Monique Cantos-Perber.
Ruven Augien avait une pensée extrêmement forte, solide dans ses fondements philosophiques, en particulier un refus d'une naturalisation ontologique et épistémologique des concepts moraux. Et il a beaucoup publié dans ce domaine, mais il s'est également beaucoup intéressé, surtout dans les 15 dernières années, à de nombreuses questions de société, des questions d'éthique plus concrètes, où il a défendu de manière très stricte et engagée et résolue une conception morale qu'il définissait comme l'éthique minimale, qui affirmait que nous avons avant toute chose l'obligation morale de ne pas nuire à autrui.
Aucun devoir envers autrui, ni envers soi-même, telle était la morale minimale de Ruven Augien, de ses premiers ouvrages, le réalisme moral, jusqu'à philosopher ou faire l'amour, sans oublier le rasoir de Kant et autres essais de philosophie pratique dont il sera question durant cette soirée, et bien sûr, son tout dernier livre bouleversant sur sa propre expérience.
Les dernières années de la vie de Ruven Augien ont été marquées par une terrible maladie, et il a publié au mois de janvier dernier un ouvrage qui s'intitule « Mes mille et une nuits », qui est une réflexion de très grande profondeur et qualité philosophique sur la maladie et également sur les devoirs sociaux du malade, où il analyse la maladie et la manière dont elle redistribue les éléments de la vie humaine, mais dans un contexte de réflexion presque enjouée et de toute façon toujours fortement engagée.
Morale minimale, position radicale, engagement dans l'expérience, goût de l'argumentation, le tout dans un style enjoué. Donc voici une manière de décrire Ruven Augien, une manière aussi de se demander comment prolonger sa voix, comment occuper cette place si originale et même transgressive.
Dans la philosophie analytique de langue française pour ce qui a trait aux questions de morale et politique, tout comme le nombre de ceux qui s'y intéressent n'atteint pas la dizaine, il va laisser un vide immense. Car il travaille depuis longtemps à cela et c'est un de ceux qui a pris les choses de la manière la plus radicale conceptuellement. Pour ce qui a trait à cette conception morale que je viens de restituer, il est totalement irremplaçable. C'était une voie unique à cause de son engagement, de sa cohérence, la résolution de le soutenir envers et contre tout, et qui a gagné à Ruven une assez large audience et qui lui a permis de toucher un public, surtout de personnes vulnérables, considérées à tort comme moralement responsables de leur situation, des malades, des prostituées, des migrants, pour lesquels il s'élevait contre toute espèce de forme de paternalisme moral qu'on pourrait avoir à leur égard. Et qui consiste souvent à les rendre moralement responsables de leur souffrance.
L'hommage à Ruven Augien a lieu donc ce jeudi, le 28 septembre, à la BNF, Bibliothèque nationale de France, dans le grand auditorium de 17h30 à 20h. L'entrée est libre et on mettra le programme sur notre site.
Merci Géraldine de nous parler de cet hommage rendu à Ruven Augien. Et puis on peut l'écouter en ligne, Ruven Augien, c'est aussi
l'avantage. Oui, il y a plein d'émissions disponibles sur France Culture et on pourra aussi effectivement en mettre les liens sur le site du journal de la philo et des chemins de la philo.
Déjà rendu hommage d'ailleurs, je me souviens. Merci Géraldine. Et merci à Pauline Vermeren qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, vous-même évidemment, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Yanis Djoudad qui était à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le procès de Socrate. Demain, la parole sera à la défense. Comment Socrate répond-il aux accusations d'impiété, de corruption de la jeunesse et de troubles à l'ordre public qui lui sont faites ? Eh bien, la réponse demain, en compagnie du philosophe Dimitri Elmure. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Et rendez-vous sur la page, le site internet des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous demain à 10h donc pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.